Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Philippe de Catlino. Bonjour docteur.
Bonjour.
Père de famille nombreuse, médecin généraliste, spécialiste de la bioéthique que vous avez enseigné, notamment pour la communauté Saint-Martin, mais aussi, mais j'avais presque envie de dire, mais surtout, conférencier, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, tous de grande qualité. Vous publiez deux ouvrages que j'aimerais, quoiqu'ils ne semblent pas à première vue, en rapport direct rapproché. Le premier, les Avatars du progrès, paru aux éditions Saint-Léger, un livre de 213 pages vendu 16 euros, est une réflexion très argumentée, très intelligente et très accessible, il faut le préciser, sur certaines dérives de la science actuelle et des mœurs. L'autre, quand Marie visite la France chez le même éditeur, Saint-Léger, un livre de 425 pages vendu 22 euros, propose en réalité les remèdes à opposer à cette démence dont nous allons avoir l'occasion de reparler. Docteur, à quel moment avez-vous pris conscience du tournant inquiétant de la science en général et de la médecine en particulier?
Mais en tant que médecin, ça fait un certain temps qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du fait de l'appauvrissement orchestré par les autorités, de droite comme de gauche, depuis déjà longtemps. On en voit la conclusion aujourd'hui avec ces services de RA saturés, évidemment. Ils ont fait en sorte, ils voulaient que les services marchent toujours en flux tendu. Quand il y a un afflux, une canicule, quoi que ce soit, ça va plus, hein. Alors ceci au niveau des moyens et au niveau du personnel, on a empêché nos enfants de faire médecine avec un numerus clausus invraisemblable. Et puis maintenant, ce sont ces technocrates qui décident, et non pas les médecins, qui décident comment on doit soigner, qui disent aux médecins généralistes qui interdisent aux médecins généralistes de soigner leurs patients du Covid, alors qu'en même temps, on préconise l'emploi d'un produit euthanasiant dans les EHPAD, on allonge, vous comprenez, ils disent on veut sauver des vies, mais ils préconisent l'euthanasie, ils allongent le délai de l'avortement jusqu'à la naissance sous des prétextes de problèmes personnels des parents. Donc ça fait un bout de temps que les choses vont de mal en pis. Et moi, ce qui m'avait vraiment touché, c'est de me rendre compte, quand j'ai voulu porter secours aux femmes en détresse victimes du syndrome post-avortement, que cette souffrance-là était ignorée, on ne voulait pas la voir. C'est le contraire de la parabole du bon samaritain qui s'arrête pour mettre de l'huile sur les blessures du blessé. Là, non, il fallait faire un détour, ne pas voir et ne pas soigner ces blessures-là.
Parce qu'elles n'existaient pas, en fait. Elles ne pouvaient pas
non,
exister.
Non, elles ne pouvaient pas exister. Alors, j'ai suivi justement une formation dans ce but-là, faite par un professeur canadien, le professeur Philippe Ney, qui est le premier à avoir décrit le syndrome du survivant d'avortement et le syndrome post-avortement. Je fais avec mon épouse et nous avons essayé donc de porter secours à ces femmes-là. Et ça a été très mal vu, même, c'est le comble, par des prêtres du diocèse.
Est-ce que, pour vous, cette crise de la médecine, de la société, commence véritablement au début des années 70, justement avec la législation sur l'avortement?
Je pense, oui, bien sûr, parce que ça l'avortement a ouvert une porte sur la culture de mort qui ne peut plus être fermée. Enfin, c'est un changement de paradigme complet maintenant. Mais je pense qu'il faut rechercher encore plus loin les origines, déjà dans les lois dans les décrets de contraception, l'autorisation de la contraception, parce que cette mentalité contraceptive porte en elle, elle fait le lit de la mentalité abortive. D'ailleurs, tous les échecs de la contraception sont de fait réglés par l'avortement. Parce qu'il y a une chosification déjà de l'enfant à naître dans la mentalité de l'enfant désiré. Vous savez, on a dit, le jour où il y aura plus d'enfants non désirés, il y aura plus de maltraitance d'enfants. C'est pas vrai du tout. C'est tout le contraire qui se passe. Plus l'enfant est considéré comme parce que évidemment, si l'enfant n'est pas désiré, il n'a plus aucun droit. S'il n'a plus le droit de vivre, il n'a plus aucun droit. Et cette idéologie de l'enfant désiré est en contradiction complète avec la pensée chrétienne. Un enfant, il doit être accueilli, point final.
Vous parliez à l'instant d'un changement de paradigme. C'était une formule chère dans les années 70 à un éminent professeur de médecine qui ne cachait pas d'ailleurs ses liens avec la franc-maçonnerie. Mais nous sommes véritablement, avec ce changement de paradigme, en face d'un projet de société en rupture ouverte avec le christianisme. J'ai presque envie de dire que l'unique but de tout cela est d'aboutir à une prétendue libération prométhéenne de l'humanité délivrée de Dieu et de sa loi.
Oui, alors effectivement, il y a une attaque frontale du Créateur, là, finalement, une attaque contre la vie, et aussi une attaque qui se manifeste, se fait vraiment jour aujourd'hui, ça on ne l'imaginait pas encore il y a 20 ans, contre le couple. Et à la limite, c'est là qu'on voit que Paul VI était un grand prophète avec son encyclique Humanae Vitae, qui nous apprend qu'il ne faut pas dissocier union et procréation. Aujourd'hui, le but ultime, on a l'impression que c'est vouloir de séparer complètement la sexualité de la reproduction humaine. À terme, finalement, alors on a les PMA sans père, les GPA, etc. Mais à terme, on voit bien que le but des transhumanistes serait de faire des enfants hors matrice maternelle, complètement in vitro. Et le sexe, c'est uniquement pour jouer, pour le plaisir. Mais manifestement, il y a une volonté de destruction du couple humain, donc une attaque frontale contre le Créateur quand il créa l'homme et la femme, et surtout quand il créa véritablement un couple et une famille. On le voit dès le premier chapitre de la Genèse, premier ordre donné au couple humain, sitôt créé, c'est multipliez-vous. Donc il crée tout de suite une famille. Et c'est l'objet des attaques aussi, non seulement contre la vie, contre le mariage, contre la famille. On voit bien que c'est une attaque frontale contre le Dieu créateur.
Mais il y a quelque chose d'ailleurs de très évident. Dieu les fit hommes et femmes, il les fit. Manifestement, c'est une parole qui ne passe plus.
Absolument. C'est d'ailleurs sur ces paroles que j'organise mon livre Les avatars du progrès, là, la déshumanisation en marche, avec un premier chapitre qui s'intitule Dieu créa l'homme, et un deuxième chapitre Hommes et femmes, une deuxième partie, disons Hommes et femmes, il les créa. Donc, dans un premier temps, il y a toutes les attaques contre la vie humaine, dont je discute les tenants et aboutissants, et dans un deuxième temps, toutes les attaques contre la sexualité humaine, le gender, etc. Voilà.
J'ai presque envie de dire, quand certains passages de votre livre, je peux avoir quelques lumières sur la question, je suis resté à certains moments absolument ahuri. J'ai presque envie de dire que la lutte contre l'avortement aujourd'hui est quasiment dépassée. Nous en sommes déjà à prétendre, la plupart des gens l'ignorent. Je pourrais vous citer des évêques qui me disaient il y a quelques années, quand j'évoquais le sujet, que j'étais une femme exaltée qui, bien entendu, se montait la tête et que ce genre de choses n'arriverait jamais. On en arrive à autoriser le néonaticide, autrement dit, appelons les choses par leur nom, l'infanticide. Et l'on ne voit pas pourquoi, si l'on peut tuer un nouveau-né, on ne pourrait pas logiquement tuer un enfant de 3 ans, voire davantage, puisque certains disent que pour marquer la limite à laquelle les parents devraient s'arrêter, il faudrait que l'enfant ait conscience de soi.
Oui, alors tout ça, c'est le résultat de la philosophie utilitariste, avec ces deux versants, le tout biologique, l'antibiologisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et ça aboutit à ces deux exemples que je cite dans mon livre, notamment par exemple le professeur Nizan, qui dit qu'il faut créer le terme de néonaticide pour distinguer les enfants qui ont les vrais infanticides et ceux qui ne sont pas un infanticide, parce que s'il n'y a pas de projet parental, à ce moment-là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a que de la tumeur humaine, donc ce n'est pas un infanticide, c'est un néonaticide qui ne tombe pas sur le même coup de la loi. Et puis vous avez à l'inverse le professeur Singer, mais ça aboutit au même résultat, le philosophe de l'université de Princeton, qui dit que s'il n'y a pas un certain degré de conscience de soi, etc., qu'il faut finalement redéfinir le concept de personne. S'il n'y a pas une certaine conscience de soi, il n'y a pas de personne. Et donc, selon lui, un gorille sain, en bonne santé, a plus de raisons d'être considéré comme une personne qu'un trisomique ou un Alzheimer, un vieillard, etc. C'est quand même affolant d'en arriver là. Oui.
Mais nous entrons là dans une une logique. Bien entendu, on se garde bien de nous mettre en relation ces divers programmes et ces lois sociétales. On nous répète qu'il s'agit d'immenses progrès pour l'humanité, que tout ira beaucoup mieux quand on les aura adoptés. Mais nous sommes là dans un glissement extrêmement inquiétant vers l'euthanasie, qui peut rapidement se muer, on se souvient de ce qui s'est passé en Allemagne pendant les années 40, en suppression des indésirables. Vous le disiez à l'instant, qu'il s'agisse des grands malades, des vieillards, des infirmes, des aliénés, voire tant qu'à faire, des opposants politiques.
Voilà, oui, tout de suite on voit que eugénisme et euthanasie sont dans la droite ligne de l'avortement. À partir du moment où le thunthérapa est dépassé, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc justement, vous parliez des enfants de 3 ans. Ben, déjà, aux Pays-Bas, en Belgique, un enfant de 3 ans, même plus, peut être euthanasié à la demande de ses parents si cette souffrance leur est insupportable. À eux, parents, ils peuvent demander l'euthanasie de leur enfant. C'est le génisme, cela. Et l'euthanasie mélangée, il y a les deux.
Vous vous souvenez sans doute de cette jeune femme, qui d'ailleurs je ne jetterai pas la pierre, on ne peut pas juger de la souffrance des autres, qui avait mis au monde il y a quelques années en France un bébé légèrement handicapé et qui avait demandé qu'on le laisse mourir alors qu'il était curable parce qu'elle voulait un enfant parfait. Est-ce que ça existe, docteur, l'enfant parfait?
Oui, évidemment. Et me revient en mémoire cette anecdote que j'ai eue rapportée directement par une étudiante en médecine qui était présente au staff le matin où on discutait le cas d'un enfant qui avait été tué sur la paillasse, comme il disait la veille, un enfant à terme. Les parents avaient demandé, vous savez que l'IMG, ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse pour une malformation, qui s'appelait dans la loi Veil ITG. Depuis la loi Veil, c'est possible jusque ITG, interruption thérapeutique de grossesse, et désormais interruption médicale de grossesse. Dès la loi Veil, c'était possible jusqu'à la naissance. Donc, des parents avaient demandé, c'était pour un bec de lièvre, une malformation parfaitement bénigne, l'élimination de leur enfant. Et puis, bon, là, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. L'enfant n'était pas mort. Il est né vivant. Et donc, ils l'ont étouffé, ils l'ont laissé mourir. Je ne sais plus comment. Enfin, bref, il est mort sur la paillasse. Et le lendemain, au staff, donc, le cas a été discuté. Et l'un des médecins dit, mais on ne pouvait pas faire autrement. On avait promis aux parents un enfant mort.
Mais est-ce qu'on peut vraiment en France tuer un bébé parce qu'il est atteint d'un bec de lièvre?
Eh bien, le cas m'a été rapporté par cette jeune fille qui était une musulmane à l'époque, qui s'est convertie depuis, qui est baptisée, qui est maintenant mère de 7 ou 8 enfants. Et je ne mets pas en doute son témoignage.
C'est bien ce qui m'inquiète. Mais est-ce qu'on n'en est pas dans ce cas-là? Nous avons tous des raisons d'être inquiets, parce que si la médecine actuelle, c'est cela, on a tous raison de s'en faire pour notre peau. Hein.
Oui, effectivement, on se demande pourquoi l'ordre des médecins ne s'est pas élevé contre des mesures comme ça, comme aujourd'hui, ils ne s'élèvent pas contre l'interdiction faite aux généralistes de soigner leurs patients. C'est du jamais vu. Hein.
C'est du totalement jamais vu. On a le sentiment que... qui disait déjà « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Oui.
Mais c'est véritablement cela. Nous sommes devant une sorte de projet délirant qui voudrait substituer à l'humanité telle qu'elle existe une sorte de... Vous évoquez quasiment
parfait.
Un robot. Hein.
Oui, l'homme parfait. Donc je parlais de la grossesse. Il faudrait qu'elle soit séparée finalement de la femme. Mais également au niveau... comment dire, il faudrait ici aborder tout le problème du transhumanisme que j'aborde dans mon livre. C'est un peu difficile à résumer parce que c'est vraiment une bouteille à langue, c'est un sujet énorme. C'est le but du transhumanisme, faire des hommes soit parfaits, soit des sous-hommes qu'on utilise à son service.
Hein. Vous évoquez même, on entre là dans la question des croisements, des chimères, des croisements humains. Animaux, qui sont d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est envisageable, si cette créature-là vivrait.
Oui, j'ai un chapitre sur les chimères. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible. Génétiquement, ça paraît impossible. Alors, il y a bien, effectivement, du matériel porcin, par exemple, qui peut être mis dans du génome humain. Par exemple, on peut imaginer qu'on mettrait du matériel bovin dans du génome humain pour que la femme, ou l'inverse. Du matériel humain dans une vache pour qu'elle produise du lait de femme. On pourrait très bien imaginer ça comme manipulation génétique, mais ça ne change rien au fait que la vache reste une vache. Et si on met des valvules de porc à un cardiaque, qu'on opère des valvules cardiaques malade, il n'est pas mort pour autant. Ça, c'est des chimères qui... Enfin, ce n'est pas franchement des chimères, mais il y a un mélange de matériel humain-animal qui ne porte pas à conséquence, qui ne change pas l'être, c'est simplement l'avoir qui change. L'être reste lui-même. Mais dans le transhumanisme, il y a un désir d'aboutir à vraiment un changement d'être. S'imaginer que si on met toute l'intelligence, par exemple, d'un homme, toute sa mémoire dans un disque dur, on va pouvoir le faire survivre, c'est délirant parce que, de toute façon, le disque dur, il ne vit pas, c'est une machine, donc il n'y a pas de survie. Tout cela, ça avait été déjà dénoncé par Gustave Thibon dans les années 70. Il y a en fait une confusion énorme entre l'être et l'avoir aujourd'hui. On s'imagine que en manipulant l'être humain, on va lui apporter un supplément d'être. En fait, on lui apporte un supplément d'avoir. Avec, par exemple, si on transforme, si un aveugle, on lui met un œil bionique ou c'est pas plus qu'un handicapé à qui on mettait une jambe de bois, finalement. Ce n'est qu'un avoir en plus. L'être humain reste le même et il y a un délire des transhumanistes là qui est tout à fait étonnant.
Mais on est dans une certaine logique qui consiste à dénier l'existence de l'homme, à croire que l'homme c'est du matériel biologique en fait.
Voilà.
Par conséquent.
Oui, je ne sais pas quoi dire là.
En fait, nous sommes en face d'une immense volonté démoniaque. Je ne sais pas si nos auditeurs accepteront le mot, mais il y a une volonté de changer le monde et de détruire l'humanité créée à l'image de Dieu. On est presque tenté par moments de baisser les bras devant ce projet, soit parce qu'on a peur de devoir se battre contre les puissances en question, soit parce qu'on a le sentiment que la bataille est perdue d'avance. C'est là, docteur, que j'en arrive à votre second livre, votre très beau livre, « Quand Marie visite la France ». Il existe un lien très fort, nous savons bien, un lien très particulier entre Notre-Dame et la France. Est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler lequel ?
Alors, la France est un pays béni dès le début du christianisme, dès le premier siècle, quand on pense que ce sont les meilleurs amis de Jésus, toute la maison de Béthanie avec Lazare, Marthe, Marie, et puis les deux autres Maries, là, Marie Jacobée et Marie Salomé, qui sont les mères de quatre apôtres, dont Jean, le disciple que Jésus aimait, les deux frères de Jésus. Tout ce monde est arrivé donc au Sainte-Marie de la Mer. C'est tout à fait étonnant, cette élection de notre pays. Et la Sainte Vierge, tout de suite, a pris notre pays, tout notre pays dans son amour, on peut dire. Elle l'a comblé de bienfaits et est venue le visiter un nombre absolument incroyable de fois, pas simplement les 6 ou 7 apparitions reconnues officiellement, mais dès l'an 430, donc un an avant le concile d'Éphèse, en 431, qu'il a déclaré à Théotokos, mère de Dieu, elle est apparue en 430 en deux endroits. Premièrement, au Marilet, près de Saint-Florent-le-Vel, entre Angers et Nantes. Elle est apparue à l'évêque Saint-Maurice, lui demandant d'instituer la fête de sa nativité le 8 septembre.
Qui fut autrefois tellement populaire chez nous,
voilà.
Notre-Dame-Langevine.
Notre-Dame-Langevine, donc dès 431, l'Anjou a fêté Notre-Dame-Langevine le 8 septembre. Et là, elle s'est présentée finalement comme étant un bébé humain, né d'un père et d'une mère, comme chacun d'entre nous, ce que certains ne veulent plus entendre dire aujourd'hui. Et la même année, quelques semaines après, elle s'est présentée au Puy-en-Velay, et là, elle s'est présentée comme reine du ciel. Et ensuite, c'est une suite, on pourrait dire, ininterrompue d'apparitions. Alors, dans mon livre, j'en relève 60, mais l'abbé Laurentin parle de 240, donc j'en ai pris qu'un quart, et c'est déjà des très beaux récits.
Vous terminez le livre sur une anecdote que je n'avais jamais entendue, que j'ai trouvée particulièrement belle. Je ne sais pas pourquoi personne ne l'a évoquée, c'est à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris, au mois d'avril 2019, tout le monde s'en souvient. En dépit des dégâts irréparables, le pire a été évité dans des conditions absolument providentielles. Si l'on a parlé de l'étonnement des premières personnes qui sont entrées dans la cathédrale et ont constaté que ni la croix au-dessus de l'autel, ni la statue de Notre-Dame du Pilier, ni l'autre statue de Notre-Dame n'avait été touchée par les flammes, je ne me souviens pas avoir entendu quiconque à part vous raconter que devant les statues de la Vierge, alors que la chose paraît, quand on imagine la chaleur qu'il devait faire dans la nef, totalement
La chaleur,
matériellement
les
invraisemblable,
tonnes d'eau déversées.
les cierges intacts continuent à te brûler.
Oui, alors c'est ce qu'on a entendu dans la presse, effectivement, parce que ça m'a été rapporté par quelqu'un qui l'a vécu, un de mes neveux, qui est rentré le lendemain. Il est un des bras droits du directeur de Louvre. Il est rentré pour faire l'inventaire avec les pompiers des œuvres qu'il fallait sauver. Et donc, il a vécu ça. Il a vu les cierges qui brûlaient devant Notre-Dame du Pilier. Et les pompiers ont été tellement soufflés, certains se sont agenouillés et certains se sont mis à pleurer. Ouais, c'est émouvant parce que c'est vraiment... Alors, il y avait en plus, alors ça, tout le monde l'a vu, la Pietà du cœur avec la croix lumineuse derrière. Donc là, il y a, à mon avis, une véritable mariophanie. La Sainte Vierge est venue nous dire, écoutez, votre pays est en ruine. Il est rongé par l'athéisme, il est gangréné par la culture de mort, etc. Mais moi, je suis là.
C'est exactement ce qu'elle a dit il y a 150 ans à Pomain. Mais priez, mes enfants, quand vous évoquez Pomain, vous insistez sur le fait que le premier mot du message, mais, est resté inscrit dans le ciel à long moment tout seul.
Oui, normalement, mais, ça se rapporte à une circonstance. Les offres qui précèdent, les Prussiens sont là, mais priez. Or, elle ne dit pas ça, elle dit simplement mais priez. Ce qui rend ce mais complètement intemporel, et il est valable pour nous aujourd'hui, comme à Notre-Dame, l'athéisme, la culture de mort, l'islam, tout ça a envahi la France. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps.
Docteur,
c'est toujours le même message, finalement.
Il va falloir clore cette émission, il faut la clore effectivement sur ce message d'espoir. Vous pensez donc que cette anecdote des cierges qui brûlent dans Notre-Dame après l'incendie est révélatrice, parce que Marie n'a pas abandonné la France.
Non, Marie n'a pas abandonné la France, certainement. Elle est plusieurs fois venue se présenter comme reine de France, notamment à Versailles. Elle est apparue en 1914, en pleine guerre de 14, par conséquent.
À Notre-Dame des Armées.
À Notre-Dame des Armées. Et elle s'est présentée là comme reine de France, habillée en reine de France avec une ceinture tricolore. C'est tout à fait étonnant, quand même.
Merci encore, docteur De Catlino. Je rappelle ces deux ouvrages que tout le monde devrait posséder, parus aux éditions Saint-Léger, « Quand Marie visite la France », qui est un livre merveilleux, véritablement consolant, et on en a besoin par les temps qui courent, et « Les avatars du progrès et la déshumanisation en marche », qui est une synthèse très accessible et d'une profonde intelligence qui permet de comprendre ce qui se passe actuellement. Merci encore, chers auditeurs, et à bientôt.